Le marathon des mots présente Yves Charnet, le libraire de Gambetta, épisode 1. L'inconnu du Nautilus. L'homme habite là, parmi ses fétiches. Nous sommes quelques jours avant Noël, un soir de décembre 2012. C'est dans le petit bureau, au premier étage du Nautilus. Ça se passe derrière la porte avec une vitre opaque, la grande table de travail au fond encombrée de papiers en vrac, de livres empilés, de factures, bons de commande, enveloppes déchirées, courriers en cours, agenda noirci de rendez-vous, cartons d'invitation, listing, programme d'édition, catalogue. L'homme est finalement venu s'asseoir sur le banc contre le mur jaune, les mains posées sur le genou de la jambe droite croisée sur la gauche. Il parle maintenant d'une voix plus basse, plus lasse, comme plus confiante. C'était encore trop protocolaire tout à l'heure. Bien calé dans le profond fauteuil noir derrière la dite table de travail, à portée de l'ordinateur, des téléphones, vous regardez avec un étonnement amusé ces animaux empaillés, ces têtes de bêtes accrochées au mur. Il y a même une affiche de tauromachie, des cartels, des dates, de la poussière et du sang. Jusque dans ce modeste bureau, l'Espagne pousse un peu sa corne à deux pas du Capitole où chantent les ténors enrhumés de la Nougarie. Vous étiez d'ailleurs venu réfugier votre chagrin ici, titubant depuis l'église Saint-Cernin. Vous étiez venu vous taire, après la messe, le petit cercueil cloué de violette et, sous la baguette de Michel Plasson, la musique du troubadour mort. Mais c'est une autre histoire, un autre récit. Vous les raconterez forcément à un moment ou à un autre. Vous avez toujours mélangé toutes les histoires, tous les récits. C'est presque la pénombre maintenant. Juste la lumière de cette grosse lampe posée sur une table basse. L'homme n'a plus pour se cacher que ses petites lunettes rondes, yeux bleus derrière deux cercles de métal, rides profondes sur le front, du blanc déjà dans les cheveux de plus en plus dégarnis, barbe et moustache taillées court. Vous recueillez ses confidences, presque une confession. L'homme parle rarement de lui, sa vie, son métier, mais il le fait. Pour vous. Il y a longtemps que vous vouliez lui demander. Presque un coupable qui passe aux aveux. Vous tendez l'oreille. Moitié commissaire Maigret, moitié docteur Freud. Vous êtes un écrivain, un voleur de mots, un pilleur de vie. Vous l'écoutez surtout comme un ami, un grand frère. C'est un provincial, comme vous. Il a une petite dizaine d'années de plus que vous. Plus un père qu'un frère. Malgré ce peu de différence d'âge, une génération à peine. Il vous a toujours impressionné, total respect. C'est un adolescent en 1968 et vous, encore un enfant. Vous êtes ça, deux amis. Ça s'est fait tout de suite, d'un coup. Ça n'a plus bougé. Depuis le premier déjeuner d'octobre 1996, on entend presque le silence dans ce petit bureau mal éclairé. En bas, ça grouille, la librairie remplie de clients, c'est la grande foule, la presse quasi frénétique des achats de Noël. Tout à l'heure, l'homme aura les chiffres, les ventes de cette nouvelle très grosse journée. Les experts avaient annoncé pour le passage à l'an 2000 la mort du livre, et puis non. Les gens veulent encore ça, le poids du papier entre leurs mains, l'épaisseur des pages. Ils veulent encore toucher le grain, la peau. L'homme que vous écoutez ce soir dans son petit bureau fait commerce de cette marchandise qui est plus qu'une marchandise, un miroir, une loupe, un kaléidoscope. Il vend des petits tas d'utopies, des volumes de liberté. ces objets intempestifs permettent de résister à notre putain d'époque, à sa vulgarité, sa brutalité. Ça veut dire libre, le mot livre. Et c'est ça qu'elle veut détruire en premier, l'époque, son formatage fascisant. Elle ne veut voir qu'une seule tête, une seule tête vide devant des écrans, une tête à l'oreille pucée. L'homme vend de quoi réveiller ses cerveaux sous haute surveillance. Des idées, des pensées, des émotions, des cultures, des rêves, des recherches, des bouts de la beauté perdue. L'époque est une putain. Et la consommation, une partouze géante. Tout le monde couche avec la marchandise. Une baise blasée, sans plaisir, sans désir. Et le pire est sans doute que dans ce bordel climatisé, plus personne ne pense à faire la révolution. Plus d'envie pour les tables renversées du grand soir. On sécurise à mort. Hygiénisme compulsif, du gel, muselière, du gel. C'est ce qui vous rend triste à quelques encablures de Noël, le capitaine et vous. Il fait, en chuchotant le bilan de sa vie, cet homme qui vend des livres. Sans lui, cette ville ne serait pas la même, cette cité. C'est le centre de Toulouse, ombre blanche. Vous l'appelez souvent le Nautilus, ce navire en papier. Et l'homme, c'est le capitaine Nemo, le capitaine Ahab. Vous l'appelez Christian, parfois Toto. C'est un point d'appui pour vous, un point de repère. Vous le considérez comme un sorcier des signes. Il vous fait rire aussi, beaucoup, souvent. Ce soir, vous l'écoutez, sa vie à voix basse. Vous le demandiez depuis longtemps. Comment on devient libraire? Quand? Pourquoi? Il marmonne, comme pour lui-même. Vous captez des éclats, des pièces du puzzle. C'est toujours un miroir brisé, la vérité d'un homme. Vous, vous n'avez pas de vérité, pas de morale fixe. Vous n'avez pas d'identité, juste cette collection de masques depuis l'enfance. Vous faites des livres, pour tous et surtout pour personne. Vous formez un drôle de couple avec le capitaine Nemo. Il a 59 ans, ce soir d'hiver 2012. Votre âge, ce 6 juin 2021. Le hasard objectif s'amuse à faire ainsi des nœuds bizarres. Deux hommes dans la ville. Jean Gabin jouerait le rôle de l'homme, Alain Delon le vôtre. Ce serait mieux si c'était un film. La vie. Pour la personne derrière la caméra, vous hésitez. Jean-Luc Godard, Marguerite Duras. Vous pensez, plus furtivement, à Philippe Garrel. Et puis non, Henri Verneuil. Le film s'appellerait comme ça, L'inconnu du Nautilus. La musique serait d'Ennio Morricone, bien sûr. Ça continue d'être le bazar, dans votre tête dérangée. La différence entre Tintin et Milou. Nous sommes amis, sans l'être devenus. Je m'explique. Rien d'ébouriffant comme les coups de foudre. J'arrivais à Toulouse, l'été 1996. Je jouais le rôle du jeune agrégé normalien débarquant de Paris, 2 ou 3 livres au compteur. Le premier avait fait son petit effet. Prose du Fils, publié en 1993 par Denis Tillénac aux éditions du Crépuscule. Patrick Kechichian les avait mises à la une du Monde des Livres, une mémorable invitation de Alain Weinstein pour Du jour au lendemain sur France Culture. On pouvait presque y croire. La voix nouvelle d'un prosateur singulier, petite sornette d'une notoriété naissante. J'arrivais avec Agathe, Augustin et leur mère. Je portais encore des cravates, leurs couleurs outrées. Les bâtards restent illégitimes très longtemps, surtout à leurs propres yeux. Il faut dire qu'ils n'ont rien en propre, ni leurs yeux, ni leur nom. Je sortirai de cette vie comme de la rue d'Ulm, sans y être jamais vraiment rentré. Quelques rares êtres m'auront dans l'intermède donné le sentiment d'exister. Des hommes, la plupart du temps. Christian Torel est l'un d'eux. Claude Nougaro, Jacques Derrida, Michel Deguy, Jean Delabroix, Denis Tillinac, Pierre Bergugno, Serge Lama. Ce furent le plus souvent des maîtres, des enchanteurs. La sorte d'attention que ces êtres profondément admirés m'accordaient donnait consistance à mon chétif néant. De cette maladie de n'être personne, n'être pas vraiment né, même Marie-Pierre, avec tout son amour, n'avait pu me guérir, blessure jamais refermée. Tout le monde croyait que j'avais oublié ces vieilles histoires, à l'arrivée du trentenaire conquérant à Toulouse. Je venais fonder les enseignements de culture générale à Supaéro, une des plus prestigieuses grandes écoles d'ingénieurs en province. Le nom de Thomas Pesquet n'était pas encore devenu celui d'une marque, ni la quintessence du genre idéal. Ce héros de notre époque glaçante répare pour la seconde fois des bricoles au-dessus de nos têtes. Dans ce grand garage à satellites et autres bidules en orbite, qui est donc devenu la banlieue de notre planète détraquée. Personne ne savait à quoi pouvait bien ressembler un métier aussi improbable, surtout pas moi. Je paraissais avoir enfin terrassé les dragons d'une enfance défenestrée. Tout pour être heureux. Je la cachais comme je pouvais, ma tenace inaptitude au bonheur, et me lançais dans l'aventure, évangéliser des jeunes gens au crâne fracassé par 2 ans de bourrage technique et scientifique. Cette mission passait bien sûr par la bibliothèque, par la librairie. Je déjeunais avec le libraire de Airbus City, le patron d'Ombre Blanche. Ce fut par un beau jour d'octobre 1996, un petit resto près de la rue Gambetta. Certains copains sociologues avaient fait le lien entre libraire historique et jeune écrivain professeur. Ce copain coachait bénévolement François Hollande, un peu seul à croire en l'étoile du futur maire de Tulle. Il venait de convaincre le candidat de changer de lunettes, nouveau look et meilleur profil. C'est dans ce contexte que je me rendis dans le dit restaurant, en retard, comme d'habitude. Le capitaine Nemo m'attendait, air bourru, vaguement adouci par des petites lunettes rondes. Il leva les yeux de son portable pour dévisager l'impétrant. Il avait cet air des types auxquels on ne la fait pas, plus un léger voile de mélancolie dans les yeux. Le cheminement extravagant de la rumeur m'affublait d'un gaullisme d'emprunt et d'un chiracisme encore plus suspect. Prix à payer pour tout auteur des éditions du Crépuscule en ce temps-là. Le commandante m'avait été décrit comme un ours rouge, compagnon de route de ses maoïstes amis de chez Verdier. Bref, les choses se présentaient mal. Caricature contre caricature. Les seuls êtres passionnants dans notre univers formaté jusqu'à l'asphyxie sont ceux qui, de plus en plus rares, ne correspondent pas à leur image sociale. Portrait robot du qu'en dira-t-on. Je dis au type que c'était moi, le type qui l'attendait. Remarque sur mon retard, invitation à m'asseoir, malgré tout. Il y avait longtemps que je n'avais pas autant ri. Lui non plus. Nous nous esclaffions comme des bossus, bien après l'heure prévue pour lever le camp. Nous recommandions des cafés, anecdotes et blagues. C'est de Christian que je tiens celle qui m'aura fait le plus rire. Dans notre drôle de monde, pas toujours drôle. La différence entre Tintin et Milou, cher Yves, c'est que Milou, il n'a pas de chien. À part certaines répliques modulées par l'inimitable voix de Michel Serrault dans La Cage aux Folles, version 1973, je ne vois pas d'autre sommet pour le comique farfelu. Nous nous connaissions, depuis toujours déjà. Ce mystère nous rendit heureux et légers. Je crois pouvoir dire que Christian m'adopta d'emblée à sa plus grande surprise. Je l'adorais d'entrée. Chapeau l'artiste. Rien n'aura pu faire cesser depuis 25 ans cette conversation et cette amitié. Nous fûmes d'accord tout de suite sur le fait que ce serait entre nous la même chose. La conversation, l'amitié. Il y a un quart de siècle que Christian Torel invite Yves Charnay à déjeuner, sans raison, pour le plaisir, comme ça. Je voudrais juste qu'on comprenne bien que, dans ce vieux couple, je connais mieux Christian que Yves, beaucoup mieux même. Cette immédiate amitié ne s'est brisée contre aucun des obstacles habituels, mon fichu caractère, nos différents politiques, nos différences dans la façon de vivre et d'aimer, l'usure des choses et du temps, l'imbécile désir d'être le plus fort, sa passion des médecins, mon incapacité à prendre rendez-vous chez un cardiologue, rien. Je ne dis pas qu'il n'y eut pas de crise, de tension, des moments difficiles. Je souligne juste que rien de tout ça n'a jamais fait le poids contre l'évidence heureuse de cette amitié comme une chance. Seul comme Jeff Costello. La dernière fois que j'ai vu mon ami, c'était il y a un bon mois déjà, peut-être un peu plus. J'étais allé dans sa belle demeure, près de Saint-Cernin, pour revoir un de mes films fétiches. Le Samouraï, de Jean-Pierre Melville, avec un Alain Delon encore plus immense que d'habitude. Depuis des années, je ne vais plus au cinéma, sauf pour voir les nouveaux films de Philippe Garrel, et je n'ai aucun appareil chez moi pour passer les quelques DVD rescapés d'une collection depuis longtemps dispersée par les enfants, le divorce et les déménagements. Dans les mois qui suivirent la mort de ma mère, je fus comme hanté par le souvenir de Delon dans ce chef-d'œuvre de Melville. Je me sentais seul au monde, seul comme Jeff Costello. Nous étions dans cette étrange période de faux confinement avec couvre-feu à 18h. Je ne quittais pas l'appartement, ma péniche en vrac. Je faisais cours sur Zoom, pauvres élèves métamorphosés en minuscules vignettes. Ma première sortie fut pour aller prendre le thé chez Christian. Les beaux fauteuils, les belles bibliothèques, les beaux murs de pierre. C'était ma première traversée de la ville rosse. La blessure des cafés fermés, restaurants aux rideaux baissés. C'est à peine si je reconnaissais ce chemin familier du canal à Saint-Cernin. J'arrivais très en retard, aux limites sans doute de l'incorrection. Christian peinait à cacher sa contrariété, le thé, les petits gâteaux, les mots. Nous eûmes juste le temps de prendre rendez-vous pour notre séance de cinéma. Sur son grand écran blanc. À la fin du film, connu par cœur, mon ami me vanta le Pfizer, la parfaite organisation du vaccinodrome près de Saint-Michel. Je redis que non, pas ça, pas comme ça. Je ne voulais pas devenir un QR code sur un passeport sécuritaire. Christian soupira, son sourire attristé. Les samouraïs ne se vaccinent pas. Mon rire idiot. Nous nous connaissons par cœur, presque aussi bien que les films de Renoir ou de Visconti. C'est mon ami, le libraire de la ville. Nous avons chacun notre façon de ne pas l'aimer. Notre époque invivable. Cette société déteste qu'on lui préfère la liberté. Chacun sa dissidence. En partant, je dis à Christian que je ne perdais jamais, enfin, jamais vraiment. Il a fait en souriant son petit comme pour ne pas être trop complice. Il est tout entier contenu pour moi dans ce petit le type qu'on prend pour le patron d'Ombre Blanche. Avec le temps, je ne crois plus qu'à cette science-là, la science des êtres uniques.